info.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je voudrais vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand Direct Radio Django. Trois sujets au menu ce soir. On va commencer d'en vivre à Lausanne avec une question santé et nous allons repenser la naissance aujourd'hui avec Linda et notre invitée Alexandra Doucet, qui est à l'origine d'un projet de maison de naissance, sujet du 21 novembre dernier, à redécouvrir ce soir dans à 18h20, la Rose des Vents. Bonsoir Daniel. Nous allons parler de santé sexuelle parce que tout le monde n'est pas égaux là-dessus.
De sexuel suite à parcours migratoire, la santé sexuelle Niger, publié sur RAISO, et avant justement certaines populations fragilisées en ce qui concerne l'accès aux droits sexuels, notamment les femmes brûlées.
Ouais, effectivement, on va parler de cette thématique par téléphone tout à l'heure avec notre invité qui est de l'association
sexuelle Suisse.
On la contactera depuis Belle. Et puis tout à l'heure à 7h, on va cultiver Lausanne. Bonsoir Isa.
Bonsoir Fabien.
Tu vas nous présenter un groupe de musique lausannoise. Il s'agit du groupe Vaya.
Oui, le groupe Vaya. Et puis ce soir, on a la joie de voir Victoria, la chanteuse, et puis le guitariste, membre du groupe, qui vont venir nous faire découvrir leur musique, qui est plus exactement du rock amérindien.
Du rock amérindien, voilà. Je suis curieux cette fois-ci, c'est bon, c'est vendu. Je dois encore attendre une minute avant de découvrir le détail de ce groupe Vaya. Une maison de naissance, la santé sexuelle suisse et le groupe musique rock Vaya. C'est le programme de cette 133e édition du Grand Direct à écouter sur radio.django.fm et sur le DAB à La Fabrique. Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce Grand Direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir, nous revons Alexandra Doucet, sage-femme indépendante et cofondatrice de la maison de naissance Eden à Lausanne. Bonsoir Alexandra Doucet.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Depuis bientôt 20 ans, vous aidez les femmes à mettre leurs enfants. Vous êtes longtemps travaillé dans les hôpitaux et de l'année, vous travaillez en maison de naissance. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'inaugurer votre structure à Duchuve. Qu'histoire ce projet, Alexandra Doucet?
Oui, alors c'est une très belle histoire. C'est une histoire à la fois d'opportunités et de rencontres. En fait, effectivement, en 2012, j'ai décidé de travailler hors de l'hôpital et puis de proposer aux couples d'accoucher et d'être suivis pour un accouchement en maison de naissance. Je travaille encore d'ailleurs dans une naissance qui existe en proximité de Lausanne, la plus près étant à Lune-sur-Morche, elle s'appelle Lunaissance. Et puis donc j'ai accompagné de nombreuses familles depuis 2012 et l'occasion j'ai rencontré une famille lausannoise qui avait le choix de leurs enfants en maison de naissance et puis ils habitent juste à côté du CHUV il fallait quand même faire les kilomètres pour aller dans une maison de naissance. Donc du coup, ils ont choisi effectivement sortir de Lausanne pour aller accueillir leur bébé. Et puis on a fait ce chemin-là. Et puis plusieurs mois après la naissance du deuxième enfant, hein, j'ai suivi les deux naissances, la femme m'a recontactée pour me proposer d'ouvrir une maison de naissance dans une partie de sa maison. Donc c'était un peu un cas de la vie. Hein. Et puis finalement, ça ne pouvait peut-être pas se refuser, en fait. Donc, on a pu commencer à arriver à ce lieu comme une opportunité pour les gens qui habitent à Lausanne, éviter de sortir de Lausanne pour pouvoir mettre au monde en maison de naissance. Ça a pris du temps, hein, c'était en 2016, donc ça a pris quelques mois, quelques années hein, maintenant. On s'est mis en lien, parce que moi, je connais quand même pas mal les maisons de naissance, connaissait un petit peu les contraintes administratives qu'impose une maison de naissance. Donc on s'est mis en lien avec la santé publique et on a commencé à concevoir une maison de naissance. Donc ça a débuté par des travaux, puisqu'il y a une norme pour pouvoir avoir les autorisations de la santé publique. En même temps, on avait besoin d'ailleurs faire un appel aux dons à la population pour pouvoir nous soutenir économiquement. Donc on a fait un crowdfunding qui s'est terminé là, fin octobre, début novembre.
Ah oui, c'était il y a quelques semaines.
Oui, ça fait quelques semaines juste. Et puis c'était Enfin, je profite d'ailleurs de l'antenne pour remercier tous les parrains parce que c'était d'une générosité fabuleuse et puis c'est très porteur, je pense.
Ouais, qui dit crowdfunding dit également succès ou défaite. Vous avez réussi, j'imagine, votre
pari. Oui, gestons là, c'est qu'on a réussi.
Non, on peut remercier les gens pour leurs dons alors qu'on y est presque. Ah, là, ouais. Dans le cas d'espèce, vous avez passé.
Non, on a fini le crowdfunding et on a obtenu l'objectif de 70 000. Hein. Ce n'était pas un petit objectif, c'était un gros objectif. Et puis, ça a été très porteur. On a eu à la fois, bien sûr, des dons d'argent, mais aussi des dons de temps, des dons de matériel. Mm-hmm. Et puis, on sentait vraiment que les gens ont envie d'une maison de naissance ici à Lausanne. Voilà.
Alexandra Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Le statut du projet maintenant, c'est vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir.
Alors.
Ou presque.
Presque. On avait annoncé, en fait, on avait annoncé des naissances en automne 2017. Et puis, on a posé notre dossier administratif depuis juin, début juin 2017, là. Finalement, donc, au fur et à mesure du temps qui avance et des démarches administratives, il va y avoir de la lenteur qui n'était pas programmable à l'avance. Hein, ça arrive. Et puis, on a un délai qui va se prolonger. On n'aura pas nos premières naissances en 2017. On aura nos premières naissances en 2018. on n'a pas tellement de certitude sur la date d'ouverture puisque ce n'est vraiment pas dépendant de nous. Les travaux, nous, on les a effectués. La maison est prête. Et dès qu'on aura les autorisations, on pourra ouvrir. Donc voilà. Après, c'est vrai que si on regarde, on a déjà... je travaille avec plusieurs sages-femmes. Hein. On est un petit nombre de sages-femmes à être des sages-femmes qui sont déjà engagées dans le projet, qui vont pouvoir accompagner des femmes pour les accouchements en maison de naissance. Et donc, ces sages-femmes ont déjà de la clientèle propre qui souhaiterait, si le lieu était ouvert, accoucher à Eden. Mm-hmm. Simplement, pour celles qui arrivent donc, et qui n'ont pas encore accès à cette maison de naissance, on leur propose un accouchement sur une autre maison de naissance, actuellement, d'accord, dans laquelle on est déjà agréé.
Et vous disiez que vous aviez commencé en 2012 à travailler dans des maisons de naissance. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette approche qui est très différente de l'hôpital ?
Oui, alors moi, j'ai quand même cherché à faire ce qu'on appelle l'accompagnement global. C'est-à-dire, c'était vraiment au fur et à mesure de mon expérience professionnelle hospitalière qui est très enrichissante et qui m'a beaucoup apporté. J'ai toujours été dans connaître toutes les parties de mon travail et pas simplement me sectoriser dans un domaine. J'avais vraiment besoin d'explorer la grossesse, les consultations de grossesse, la préparation à la naissance, j'aime les accouchements et j'aime accompagner les femmes dans ces moments-là. Puis aussi les soins après l'accouchement, tout ce qui est l'allaitement, tout ça faisait part. Je pense que j'avais vraiment besoin et vraiment envie de participer à toutes les étapes de la maternité. Et puis, ce que je trouvais très frustrant, c'était de ne pas pouvoir le proposer à une famille, pour pouvoir les suivre dans toutes ces étapes. Et donc, j'ai cherché comment faire pour pouvoir pratiquer comme ça. Et effectivement, ça correspond à ce qu'on appelle l'accompagnement global, c'est-à-dire proposer au couple quand ils le souhaitent, en tout cas dans le démarrage de la grossesse, parfois même très tôt, moi j'ai des couples qui m'appellent très très tôt maintenant, de commencer un suivi et d'élaborer leur projet et de les accompagner pour que leur projet aboutisse. Voilà, c'est ça l'accompagnement global et c'est ce que j'ai recherché en sortant de l'hôpital. Parce que effectivement, ça n'est pas possible au sein de l'hôpital.
Et justement, qu'est-ce qui diffère dans l'accouchement en maison de naissance par rapport à l'hôpital ?
Alors, l'accouchement, le jour où vous accouchez en maison de naissance, vous connaissez la personne qui va être là à votre accouchement. Mmh. Et puis, vous lui avez confié un projet. Vous lui avez parlé de qui vous êtes. Vous êtes déjà... il y a une grande connaissance. Vous vous sentez déjà en sécurité, déjà en intimité avec la personne, mais aussi avec le lieu que vous avez pu visiter. Vous êtes approprié ce lieu. Alors, en plus, moi, je suis sophrologue... Donc, ce que j'amène dans ma cour de préparation à la naissance, c'est de la sophrologie. Et c'est vrai qu'on va partager le même outil. Elles vont pouvoir s'appuyer aussi sur ce qu'on a pu apprendre en cours de préparation à la naissance pour pouvoir aller aussi vers leur accouchement. Ce qui est le souhait des femmes en maison de naissance, c'est d'accoucher naturellement.
Pour reprendre la question de Linda, la différence médicale entre la maison de naissance et l'hôpital ?
Ah, pardon. pardon, je m'écarte.
Non, je prolonge la question peut-être.
Alors, la différence médicale, alors, si on reste très pragmatique, hein, l'accouchement en maison de naissance est un accouchement purement naturel. C'est-à-dire que s'il y avait besoin d'une intervention médicale, un médicament ou une opération médicale, on va à l'hôpital. Voilà, donc l'accouchement en maison de naissance, c'est vraiment un accouchement purement naturel. Ça veut dire qu'il faut enlever, par exemple, l'idée de la péridurale. La péridurale qui fait partie maintenant de l'accouchement presque courant, ça, ce n'est pas possible en maison de naissance. Voilà.
Un autre aspect qui revient souvent dans les discussions sur les maisons de naissance, c'est l'insécurité. Il semblerait que ce soit quelque chose de craint. Les femmes qui décident d'accoucher en maison de naissance sont souvent perçues comme un peu téméraires ou prennent un risque insensé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, écoutez, maintenant, on a quand même pas mal d'années de recul et il y a des grandes cohortes dans des pays comme l'Angleterre, c'est-à-dire des grandes études avec de nombreux accouchements qui montrent que d'accoucher en extra-hospitalier et en particulier en maison de naissance, lorsqu'on a choisi la population qui pouvait rentrer dans les maisons de naissance, c'est-à-dire ce sont des grossesses qu'on appelle à bas risque, où il n'y a pas du tout de problème de santé, ni pour la mère, ni pour l'enfant, de façon prévisionnelle en tout cas, et bien à ce moment-là, il n'y a pas plus de risque d'accoucher à la maison de naissance que d'accoucher à l'hôpital. Ce qu'on constate d'ailleurs, ce que les études démontrent, c'est qu'il y a même moins d'actes médicaux pour la population qui accouche en maison de naissance, bien sûr, avec le même résultat sur la sécurité, sur la santé de la femme et la santé de l'enfant.
Est-ce que vous pensez que le cadre qui est créé par une maison de naissance, à savoir une certaine intimité, un certain silence, une certaine absence de va-et-vient de personnel, est-ce que tout ça, justement, ça ne crée pas des conditions favorables pour que l'accouchement se déroule bien ?
Oui, alors c'est vrai que quand on cherche à explorer, à développer la physiologie de l'accouchement, on va aller là-dedans, on va aller dans la sécurité, dans l'intimité, pour qu'elles puissent, ces femmes, enfin, si on regarde d'un point de vue complètement chimique, hein, qu'elles puissent sécréter les hormones qui vont les soutenir et les aider à accompagner le bébé dans la naissance. Donc c'est à la fois elles et à la fois aussi le bébé qui a des répercussions sur le déroulement de l'accouchement. Donc effectivement, tout ça est très favorable pour un accouchement naturel.
Et ces hormones dont vous parlez ne sont pas sécrétées si les lumières sont extrêmement fortes, que le bruit est extrêmement fort. Enfin, il y a un blocage physiologique.
Il peut y avoir un blocage. Dans ce cas-là, il faut, si on regarde s'il y a une obligation de lumière et une obligation de bruit et tout ça, il faut que la femme elle puisse rentrer dans sa bulle. C'est-à-dire qu'elle ait un outil qu'elle a élaboré en préparation à la naissance pour pouvoir vivre ça. Parce qu'effectivement, parfois, on a besoin de tout ça. Donc, et à ce moment-là, on peut faire appel à nos propres compétences dans notre corps par des outils particuliers qu'on a travaillés.
Et si vraiment, en maison de naissance, ça tournait mal pour une raison X, Y, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, le rôle de la sage-femme hein, et son métier, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est là pour potentialiser les compétences de la femme pour qu'elle accouche naturellement, hein, avec tout ce système d'intimité, de diminution des stimulations, etc. Mais c'est aussi de vérifier que médicalement, les choses se passent normalement. Si on peut imaginer, si on représente ça avec un système de feu vert, donc la sage-femme, elle est face à des feux verts. Tout est feu vert, elle avance dans l'accouchement. Mmh. Si elle constate qu'un des paramètres devient feu orange, par exemple, ben à ce moment-là, elle transfère. Elle n'attend pas que le feu soit rouge. Donc, elle anticipe l'événement pour pouvoir faire un transfert de façon plus apaisée, moins dans la précipitation. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les études et les analyses, les transferts, en tout cas sur les études qui ont été faites d'ailleurs même dans les maisons de naissance suisses, les transferts, pour raison... la plupart des transferts se font de façon calme. Hein. Mm. C'est pour des anticipations de l'événement. Il y a peu de transferts de manière urgente.
Donc, cette idée qu'on peut avoir de l'accouchement qui tourne au drame en 3 minutes chrono, c'est un peu un mythe.
Enfin, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais il existe en maison de naissance et il existe à l'hôpital. Et ce n'est pas parce que vous choisissez l'hôpital qu'il y a moins de que vous prenez que vous que il y a plus de sécurité. Mm. C'est simplement que effectivement comme quand on traverse la route, on peut aussi avoir un accident de la route. Et ben effectivement un accouchement, il peut y avoir des accidents, c'est très rare, mais il peut y en avoir. Donc et on prend pas plus de risques à accoucher en maison de naissance de ce point de vue-là.
Et au niveau réglementaire ou légal, vous avez l'obligation d'être situé près d'un hôpital.
Alors là, les lois réglementaires, c'est moins de 20 minutes. Hein. Donc nous, on est à 3 minutes. Donc on ne peut pas faire beaucoup plus près. Ou alors on serait à l'intérieur, ce qu'on ne souhaite pas. Hein. On n'a pas non plus souhait à être à l'intérieur. Voilà.
Alexandra Doucet, qu'est-ce que vous mettrez au premier plan quand la maison Eden ouvrira véritablement ses portes ?
Pour moi, j'ouvre ces portes pour que ces bébés viennent au monde dans les meilleures conditions. Et puis que ces femmes, elles vivent ce moment avec le plus de calme et de sérénité possible. Voilà. Et les familles aussi, pour que les pères aussi puissent vivre cet instant vraiment très... très fort.
En tout cas, un grand merci pour votre venue. Beaucoup de succès dans la suite de vos activités.
Merci beaucoup, Alexandra Doucet. Merci, on vous souhaite plein succès, en tout cas, avec votre maison de naissance. On rappelle Eden, qui se trouve pas très loin du CHUV, mais en lieu privé. Voilà, on le rappelle quand même, c'est important. Et on peut vous suivre sur Facebook pour toutes les informations de l'ouverture.
Oui,
toutes les informations.
On a un site aussi, Eden.ch.
Voilà, Eden.ch. On vous met tout ça avec les liens et les détails, avec évidemment cette émission à retrouver sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup, Alexandra Doucet, sage-femme indépendante et cofondatrice de la maison de naissance Eden dont on parlait aujourd'hui. Merci.
How do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have. Inside the rainbow years, and you could happen to me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you have seen, they all seem so familiar, like they've been sent to kill ya. It doesn't take an astronaut to float into space, is just a thought. Just too heavy for me, and all I wanted was the world. If you were the star that in the sun, don't go
The Morning Sun, c'est signé Robbie Williams. C'est pour vous sur Radio Django et Radio La Fabrique, une chanson qui était tout à fait d'actualité pour cette belle journée hivernale de mardi.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, nous parlons de santé, d'éducation sexuelle, de parcours migratoire et de droits sexuels. En effet, un récent article de Santé sexuelle suisse intitulé « Parcours migratoire, la santé sexuelle négligée » a été publié sur le site de REISO, la revue d'information sociale. Il montre certaines lacunes du système de santé sexuelle qui touchent notamment les femmes et les jeunes femmes requérantes d'asile. Daniel, c'est toi qui t'es penché sur cette question. Il semble que les droits sexuels s'inscrivent dans la lignée des droits humains.
Alors oui, j'ignorais que les droits sexuels font partie des droits humains fondamentaux. Mm-hmm. Le respect de ces droits implique notamment le droit à l'intégrité corporelle, le droit à l'information et le droit à l'éducation sexuelle, et aussi le droit d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Les États signataires de la Convention des droits de l'homme ont donc l'obligation de respecter, de protéger et de garantir ses droits sexuels, convention signée par la Suisse.
En Suisse, quel est l'organisme qui s'occupe de répondre aux besoins des populations les plus fragilisées ?
Santé sexuelle suisse, c'est l'organisation fêtière suisse qui regroupe les centres de consultation et de formation pour la santé sexuelle, ainsi que les associations professionnelles de ces domaines. La principale mission de cet organisme, créé en 1993, et de permettre à toute personne vivant en Suisse d'accéder de manière égalitaire aux prestations de santé sexuelle et reproductive. Et Santé sexuelle suisse accorde une attention particulière aux personnes issues de l'immigration et souhaite, par diverses mesures, améliorer ces prochaines années l'accès aux informations et aux prestations en matière de santé sexuelle et reproductive pour ces personnes.
Des mesures que nous allons découvrir avec notre invitée Barbara Berger de Santé sexuelle suisse de Lausanne. Bonsoir Barbara Berger.
Bonsoir.
Vous êtes en direct par téléphone avec nous ce soir. Vous avez fait des études de sciences politiques, vous travaillez pour UNIA et puis vous occupez le poste de secrétaire général des femmes socialistes à Berne pendant 7 ans. Et en 2014, vous reprenez la direction de Santé sexuelle suisse. Vous êtes d'ailleurs reconnue pour être une femme engagée, animée par des valeurs de justice et d'égalité. Alors Barbara Berger, qu'est-ce qui vous a motivée à reprendre ce poste en 2014 ?
La motivation, pardon, je vous écoute très mal, je suis désolée, mais j'essaie quand même à vous parler de ma motivation. J'ai fait connaissance avec Santé sexuelle suisse, alors l'organisation que vous mentionnez, juste maintenant on vous avait présenté, pendant la campagne contre l'initiative qui a voulu que la prestation de l'accès à l'avortement sera pifée de la LAMAL, alors que chaque personne, veut dire chaque femme, qui fait une interruption de grossesse pendant les premiers 12 mois, doit payer, pendant les premières 12 semaines, pardon, doit la payer elle-même. C'était ça l'initiative et c'était bien sûr une grande campagne contre pour que vraiment les prestations de l'accès à l'interruption de grossesse restent dans l'assurance de base pour que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et pendant ces temps-là, j'ai fait connaissance, je me suis rendu compte qu'il y a l'éducation sexuelle là-dedans, qu'il y a les centres de santé sexuelle, que je connaissais aussi moi-même, les centres de santé sexuelle, mais par rapport à l'éducation sexuelle, par exemple, à l'école, moi, j'ai jamais eu l'éducation sexuelle à l'école moi-même, par exemple, et je trouvais ça vraiment très intéressant, c'est lié aux droits humains, notamment. Et ça, comme ça, j'ai découvert une organisation et j'ai toujours voulu être plus proche aux droits humains, vraiment sur ces bases-là. Et c'est pour cela que c'était évident après l'occasion se présentait que je change et je commence mon travail chez Santé sexuelle suisse. Aussi, car j'ai travaillé dans la politique avant. Et c'était toujours très important à savoir que tant qu'il y a un gouvernement nationaliste, disons, la première chose qu'ils font, c'est effectivement limiter les droits de femmes, notamment aussi le droit à l'accès à l'interruption de grossesse, ce qu'on voit dans différents exemples autour du monde maintenant. Et c'est pour cela que ces droits-là sont vraiment très importants pour l'égalité, pour les femmes, mais évidemment aussi pour tout être humain.
Barbara ? Dans quelle mesure est-ce que la Suisse, en fait, respecte les droits sexuels ?
Pardon, je n'ai pas compris.
Dans quelle mesure comment se situe la Suisse en matière de droits sexuels?
Par rapport au respect des droits sexuels.
Exact.
Oui, oui. Écoutez, c'est dans ce sens, en principe, c'est pas une situation qui est désastreuse, on pourrait dire, pas du tout. Alors, il y a beaucoup des lois qui sont effectivement, ou des droits qui sont effectivement respectés. Il y a des problèmes dans l'éducation sexuelle parce que c'est au niveau cantonal que c'est mis en œuvre et c'est effectivement c'est chaque canton ou commune qui fait quelque chose d'autre. Et il y a aussi par rapport à l'accès à la santé sexuelle pour des migrants, des migrantes, qu'il y a effectivement encore des défis et des lacunes.
Suite à ces lacunes, vous avez été mandaté pour faire justement une étude en 2016. Qu'est-ce qu'il ressort exactement de cette analyse ?
Oui. Alors l'étude qu'on a menée, c'était pour la journée de la contraception et ce qui nous intéressait, c'était vraiment à savoir comment est l'accès des requérantes et des requérants d'asile à la contraception. Et parce que au début 2016, on a eu la réponse de nos centres à nous qui disaient que on a vraiment plus de demandes des centres, des requérants et requérantes d'asile, d'avoir du soutien, de l'aide. Et c'est pour cela qu'on a mené cette enquête après pour la journée de la contraception.
Mais justement, Barbara, en lisant cette étude, on se rend compte que l'accès en fait à la contraception est un privilège en Suisse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ?
Oui, ouais. Alors, le truc est comme ça. Pour chaque personne en Suisse, l'accès à la contraception est effectivement une affaire, on pourrait aussi dire une affaire privée dans ce sens, parce que c'est pas écrit dans la main, non. Alors, ça veut dire que chaque personne doit s'en occuper soi-même.
Oui,
ça,
effectivement.
C'est le premier défi.
Barbara Berger, les pilules contraceptives ne sont pas remboursées par la main et toutes les autres protections ne le sont pas. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par cet accès généralisé?
Pardon, j'ai rien écouté, je suis désolée, hein. c'est un peu difficile. Hein.
On va voir avec la technique pour améliorer un petit peu la qualité. Non, je vous demandais, vous disiez que les prestations sont accessibles à tous, mais pourtant on le sait avec la LAMAL, les pilules contraceptives ou tous les moyens de contraception ne sont pas pris en charge.
Dans la LAMAL, la contraception n'est pas couverte, hein. c'est comme ça, c'est compris comme une responsabilité privée, c'est pas couvert par la LAMAL. Alors il y a, la LAMAL couvre après une interruption de grossesse, par exemple, mais tout ce qui concerne la prévention dans ce sens, et ça, c'est aussi vu comme la contraception n'est pas couverte. Alors aussi, par exemple, pour les requérants, requérantes d'asile, ils sont aussi, leur accès au système de la santé est couvert par l'assurance de base, par la LAMAL. Et c'est ça qui pose le problème après avec la contraception. Ça veut dire que la contraception n'est pas inclue. Alors, ça veut dire que ça pose des problèmes pas seulement pour les requérants, requérantes d'asile, pour les personnes des migrants, des migrantes, mais pour chaque personne avec un budget un peu limité, par exemple, avec statut économique qui n'est pas très fort, ça pose un problème parce qu'il y a toujours des autres priorités.
Mais Barbara, vous soulignez aussi dans cette étude le problème des femmes requérantes qui vivent dans des centres. Et à quand la révolution en fait des préservatifs féminins?
Excusez-moi, c'est vraiment...
Je disais, vous soulignez dans votre étude que les femmes qui sont dans les centres justement sont confrontées à ce problème parce que l'offre n'est pas la même d'un canton à l'autre. Et je disais,
oui,
à quand la révolution des préservatifs féminins dans les centres pour les femmes?
Oui, c'est ça. Alors, c'est comme vous dites, Daniel, c'est effectivement comme ça. Il y a vraiment, ça diffère d'un canton à l'autre. Ça veut dire que parfois, il y a dans les centres d'asile, il y a les préservatifs, mais il y a quasiment jamais les préservatifs féminins. C'est par rapport à notre enquête qu'on a fait, c'est seulement au canton de Jura que les préservatifs féminins sont disponibles. Et on parle de préservatifs féminins parce que c'est un outil mécanique qui donne aussi, qui laisse aussi, un petit peu la sécurité, la contrôle chez les femmes. C'est à cause de ça que le préservatif féminin est aussi tellement important. Bien sûr, il y a des préservatifs normaux, il y a un peu partout dans les centres ou pour un prix très réduit. Et après, il faut faire un rendez-vous chez un gynécologue pour avoir plus d'accès à des autres moyens de contraception. Parfois aussi, c'est limité à la pilule encore ou des stérilets. Ça dépend vraiment, c'est vraiment très hétérogène. Ça dépend d'un canton à l'autre momentanément. Le défi aussi dans ces questions-là, et comme avec les futurs centres fédéraux, de l'asile. C'est aussi là-bas, c'est pour nous, c'est vraiment un défi d'établir une structure qui donne le même accès à tout le monde. Mais ça, c'est effectivement un défi qu'on est encore en train de nous engager.
Dans quelle mesure le parcours migratoire de ces femmes les rend plus fragiles face aux questions de santé sexuelle ?
Bon, un parcours migratoire, il y a différents aspects. Si vous prenez, par exemple, les requérantes d'asile, ça c'est très clair, la fuite elle-même est déjà disons, une catastrophe. Alors, c'est pas très clair s'il y a encore de l'abus sexuel, s'il y a des choses comme ça. Alors, c'est très important aussi d'avoir une sorte de sécurité avec une contraception qui est accessible. Ça, c'est par exemple la situation aussi dans les centres.
Mais là,
Pour les migrantes, là-bas, ça pose aussi la question, est-ce que l'accès est accessible parce que les informations qui sont données sont compréhensibles? Est-ce qu'il n'y a pas, cette personne a encore besoin que c'est traduit dans une autre langue, qu'il y a des interprétations, voilà. Ça, c'est un grand défi aussi de mettre les informations en ligne, par exemple, pour nous, dans plusieurs langues. C'est pour cela qu'on a différents outils de base. Qui sont faits dans plus que 10 langues, par Internet, par des dépliants, des brochures. Ça, c'est très important aussi pour qu'il y ait un vrai accès. Et après, alors ce sont les informations qui sont primordiales, et puis après, vraiment l'accès aux outils, effectivement, à la fin.
Barbara, on parle beaucoup de contraception, mais dans quel domaine se dessinent les principaux besoins de ces femmes ? Par rapport à leur histoire, leur parcours.
Oui, vous voulez me dire dans un sens un peu, c'est pas tellement la contraception.
Il y a d'autres problèmes qui sont tus.
Bien sûr. Écoutez, la contraception, de savoir, de décider soi-même si on veut tomber enceinte ou non, est un des trois fondamentales pour aussi la santé sexuelle et les droits sexuels. Alors, de décider vraiment soi-même d'avoir un enfant ou non est un des trois vraiment fondamentaux. C'est pour cela que cette question aussi est vraiment importante. Bien sûr, il y a dans une phase où quelqu'un doit fuir de son pays après qu'elles arrivent ici en Suisse. Bien sûr, il y a des questions aussi qui sont plus importantes. Mais quand même, après de tomber enceinte, sans vouloir tomber enceinte, et après une catastrophe de plus.
Tout à fait.
C'est pour cela que c'est vraiment un droit fondamental que chaque femme décide elle-même si elle veut tomber enceinte ou non, et ça dans n'importe quelle situation de vie, dans n'importe quel pays, avec n'importe quel statut comme réfugiée ou non.
Qu'est-ce qui manque actuellement pour mieux accompagner ces femmes issues de l'immigration, en sachant que l'offre d'un canton à l'autre est hétérogène ? Vous expliquez qu'effectivement des ONG en fait offrent des prestations, il y a également en fait des acteurs institutionnels qui sont regroupés en fait dans différents organes qui permettent de suivre ces femmes, mais le bas blesse, que l'on veuille ou pas, je veux dire, qu'on soit en Suisse allemande ou dans le canton de Vaud, il y a des problématiques.
Oui, excusez-moi, c'est vraiment c'est embêtant, mais j'ai pas compris votre question. C'est vraiment un problème technique, je crois. Je suis désolée.
Pas de souci, on va essayer de régler la situation. Daniel, vous demandez qu'est-ce qui manque actuellement pour mieux accompagner ces femmes de migration ? Quelles sont les mesures ?
Oui, d'accord. Alors, vous parlez des centres de requérantes d'asile ?
Absolument.
Absolument, oui. Alors, ce qui manque, c'est effectivement, tout d'abord, comme j'ai déjà dit, vraiment un accès harmonisé à la contraception, un accès harmonisé aussi à l'information déjà, alors dans plusieurs langues, dans une façon aussi qui n'est pas moralisateur dans ce sens, mais qui vraiment donne des informations. Et en plus, après, il y a aussi également, il y a un besoin de formation des personnes accompagnant les requérants et les requérants d'asile, soit au niveau bénévole, soit aussi au niveau professionnel dans les centres. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde de parler de la sexualité, de la santé sexuelle. Et ça on voit aussi, c'est pour cela qu'il y avait aussi au début 2016 cette demande envers les centres de santé sexuelle d'accompagner effectivement les gens qui travaillent dans les centres.
Barbara, une dernière question pour conclure. Quelle est votre marge de manœuvre quand on sait ô combien il est difficile de parler de son intimité et de soi, et en sachant que ces femmes viennent de cultures où certains sujets peuvent être tabous?
Ouais. Bon, la marge de manœuvre, c'est vraiment fournir des informations qui sont aussi dans ce sens et aussi faire des lieux de rencontre, créer des lieux de rencontre pour effectivement parler. Parce que même s'il y a des différentes façons à parler, mais ça, au fond, ça touche tout le monde. Et c'est là-bas qu'il y a une porte d'entrée.
On l'aura bien compris, hein, le résultat de la dernière enquête réalisée en 2016 par Santé sexuelle Suisse sur les femmes migrantes montre des lacunes notoires, hein, dans ce domaine. Or, les questions de santé sexuelle et reproductive jouent un rôle essentiel dans l'état de santé physique et psychologique de cette population. Merci beaucoup, Barbara Berger.
Merci beaucoup à vous et très bonne soirée.
Très bonne soirée à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de Santé sexuelle Suisse. Daniel, pour conclure, ces femmes auraient besoin d'une attention particulière. On l'a compris dans cet entretien.
En effet, Fabien, surtout les femmes requérantes d'asile. Mariage forcé, mutilation génitale, exploitation sexuelle sont autant de facteurs qui les poussent à fuir. Il paraît urgent dans ce contexte de prendre en compte leur santé et de mettre en place des procédures pour mieux les accompagner. Et c'est justement dans cette perspective que Santé sexuelle Suisse souhaite, par diverses mesures, améliorer ces prochaines années l'accès aux informations et aux prestations en matière de santé sexuelle et reproductive pour ces personnes.
Un gros sujet, effectivement, avec encore un petit peu de travail. Merci beaucoup, Daniel, pour la présentation et la préparation de ce sujet, un sujet que vous pouvez redécouvrir et réécouter avec tous les liens sur notre site www.django.fm. Un petit peu de musique avec Sting et cette chanson « Fragile ».
Radio Django, culture.
18h41, on passe à Cultiver Lausanne. Bonsoir Isaura.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, on plonge dans l'univers de Vaya, un groupe de rock lausannois qui ne fait pas dans le rock traditionnel, comme on le connaît ici, mais dans le rock amérindien. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir pour en parler la chanteuse Victoria de ce groupe. Bonsoir Victoria.
Bonsoir.
Et le guitariste Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django.
Merci.
Alors du rock amérindien, comment est-ce qu'on définit ça? Expliquez-nous, Victoria.
C'est la question piège à chaque
oui.
fois.
En même temps, vous l'attendiez.
Ouais, mais on n'a toujours pas de flûte de Pan. Donc, ça surprend. Non, amérindien, parce qu'il y a dans pas mal de sons des totems qui sont exprimés. Et aussi parce qu'on réveille quelque chose de très animal en fait chez chacun d'entre nous et dans le public. Donc c'est vraiment une musique qui vient des tripes. Et je pense qu'un des peuples qui nous le rappelle bien, c'est celui-ci, comme certainement d'autres qui sont très ethniques, etc. Chez nous, c'est l'Amérique du Nord. Donc voilà, tout simplement.
Donc effectivement, moi j'ai donc écouté vos musiques sur votre site web www.vaya-official.com, donc en anglais.
Oui.
Mon anglais n'est pas très bon, mais donc effectivement on est porté par quelque chose qui est très puissant. Ça ressort vraiment quand on écoute votre musique, que ça soit par votre voix, Victoria, que par les sons des instruments. J'ai aussi écouté les lives et il y a aussi quelque chose de très instinctif. Hein,
tout à fait. Animal. Ouais.
Carrément, moi, je dirais presque mystique. Donc, vos influences, vous disiez les Amérindiens, donc d'Amérique du Nord, mais vous puisez votre inspiration. Comment vous faites pour trouver ces idées, finalement?
Il faut demander aux grandes personnes là-haut qui sont au-dessus de nous. D'où elles viennent? Non, honnêtement, il y a une très forte vibration de la nature. Donc, c'est l'origine même de où on vient. Donc l'individu dans la nature, moi je puise énormément de choses là-dedans.
Quand vous dites dans la nature, c'est quoi concrètement?
Le règne animal, végétal, comme il vibre, les énergies, le travail à travers ces énergies-là. Donc c'est vrai, ouais, c'est un retour à l'instinct qui est propre. Et puis, quelles sont les sources d'autres d'inspiration? Après, mystique, c'est très très juste. Il y a beaucoup de conscience en fait spirituelle dedans, mais pas religieuse. On parle vraiment de mysticisme un peu. On parle de chamanisme. J'ai pas envie de faire peur aux gens. On n'est pas en train de faire des monstres rituels sur scène, mais c'est vrai qu'on embarque un petit peu dans des vagues très profondes ou alors très venant des cieux. Et est-ce que c'est parce que personnellement j'ai des influences comme Jim Morrison? Ça peut peut-être parler à certaines personnes où il y a un charisme qui se dégage tout à coup, on devient très animal, on devient complètement autre chose, quoi. Je ne sais pas, ça c'est encore une part de mystère que j'essaie de découvrir moi-même, mais il y a clairement quelque chose d'instinctif, ça c'est sûr.
Est-ce que dans votre vie, vous avez rencontré des chamans ou des gens qui, justement...
Ça fait partie intégrante de ma vie, ouais, clairement.
Oui, d'accord, ça, en tout cas ça se sent.
Ça se sent, c'est bien.
Et vous mentionnez justement dans votre bio, The White Wolf Legend.
Oui. Finalement,
c'est de là que vous tirez le nom du groupe Vaya, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, on va dire que c'est ces peuplades qui m'ont baptisée en tant que la Louve Blanche. Donc, après ça, j'ai essayé de comprendre l'histoire même de cette légende et de la retraduire. C'est un des totems qu'on trouve dans différents totems chez les Amérindiens. Il y a l'ours, l'aigle. Bon, après, moi, je ne me suis pas cantonnée à cette culture-là, parce que la notion de spiritualité ou de totem, il y en a un petit peu partout, si on cherche bien. Mais disons que la Louve Blanche, c'est vrai que c'est ma griffe.
Voilà.
Donc voilà, je ne
vais pas vous embêter alors.
Non, mais non, ça va parce que quand je suis sur scène, on m'appelle la panthère, donc il y a quelque chose de très félin, de tigre. La dernière fois, il y en a un qui m'a dit: oula, t'as une voix tellement masculine, on dirait un énorme tigre, genre un totem tigre derrière toi. Et je me dis: ah, d'accord, je ne me rends même pas
c'est
compte.
Fort. Oui.
Donc il y a plusieurs visages en fait qui viennent. Voilà, sur scène avec moi.
Vous habitez comme
voilà, c'est ça. Je fais que médiateur.
Philippe, pour vous, sur scène, les totems, ça vous évoque quelque chose aussi?
Bah, je,
Vous êtes guitariste.
Moi, je suis guitariste. Je connais pas tellement cette tradition, mais j'aime bien. En tout cas, je me laisse inspirer un peu par les sons, tout, puis les différentes humeurs.
Ce qui vous permet de vous investir et de donner avec au travers de la guitare.
Ouais, voilà, de m'influencer, de me lâcher, de proposer des nouvelles idées, des différents. Ouais. Mmh. Différents trucs de musique. Hein.
Ouais. Sur scène, est-ce que vous créez un univers avec un habillement ou des accessoires, je ne sais pas, qui rappellent peut-être où vous puisez votre inspiration, Victoria ?
Non, à part le feu, des bougies, pas vraiment. Peut-être qu'un jour, je vais venir avec une monstre coiffe, hein, je ne sais pas. Ne sait-on jamais. Non, rien de très spécifique, hein, on est très éclectique. Mais c'est vrai que je travaille avec le feu. Donc, il y a toujours une bougie quelque part.
Qui rapporte la lumière et puis la
le feu sacré,
la pureté.
Ouais. Ouais. C'est ça.
Bon, on est curieux hein, ici quand même autour de la table. Et puis pour vous aussi, on va vous faire découvrir un extrait d'une des chansons de ce groupe, de votre groupe, Vaya. Et la chanson s'intitule également Vaya. Pourquoi avoir donné le même nom à la chanson qu'à votre groupe ?
Parce que celle-ci en particulier raconte l'histoire de cet esprit du loup qui descend sur Terre et qui... en fait, propose aux personnes de rentrer dans ce monde.
Voilà. Un rock bien lourd, c'est ce groupe Vaya qu'on reçoit ce soir avec cette chanson Vaya. Vous nous disiez hein, à l'instant pendant cette chanson les différents artistes et les différents instruments que vous avez sur scène. Vous avez une basse, de la batterie et puis vous faites des Goliaths également.
Oui, et la guitare.
Et la guitare de Philippe, on l'oublie quand même pas.
C'est important, sinon on n'a pas de ligne musicale, c'est un peu ennuyeux.
Ça, c'est les instruments que vous avez de base pour...
Oui, après, ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'il est hyper évolutif. Du départ des morceaux qu'on a enregistrés en studio, donc du nombre de personnes qui sont passées dedans, qui sont encore dedans, et puis de ceux qui rentrent dans l'équipe du live, donc ça commence à faire pas mal de monde. Il va certainement y avoir d'autres instruments qui vont rentrer dedans.
Pour les
c'est
prochains
ça qui
albums.
Est beau. Ouais.
Oui.
On se réjouit de découvrir ça. Oui. Si on revient un peu à la création du groupe, donc le groupe a été fondé en 2016.
Oui.
Finalement, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de vous diriger tous ensemble vers cette musique ? Est-ce que c'est plutôt l'un qui a eu l'inspiration ? Comment s'est formé le groupe finalement ?
Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Il y a ceux qui restent, il y a ceux qui restent un moment. Donc, j'ai pas envie de parler de groupe. J'ai vraiment envie de parler de d'un projet, en fait. Après, comment c'est venu ? Ben, c'est bêtement, j'ai commencé à écrire sous un arbre un million de mots. Puis, j'avais des musiques plein la tête, perdues dans une forêt. Je sais pas qu'est-ce qui m'a amené là-bas, mais enfin, j'étais là-bas avec mon carnet de cuir. Et j'ai téléphoné à Raphaël, qui est le percussionniste, en fait, qui est là depuis le début. Je dis, ah ouais, attends, il faut, demain, on se voit, j'ai plein d'idées, enfin, c'est arrivé et tout. Puis il me dit, ah ouais, t'es où ? Je sais pas, perdu dans une forêt, mais on va se retrouver, dis-moi où. Et le lendemain, on était en train de jammer dans un local.
Pas dans la forêt.
Non. Il avait trouvé un guitariste le soir même dans un bar, et puis on a jammé là-dessus. Et d'ailleurs, ce guitariste a été une personne importante dans le projet parce qu'il a développé des morceaux studio différemment pour la scène. Il n'est pas resté aujourd'hui pour les lives, mais en tout cas, il les a développés. Et chaque personne a amené un petit peu quelque chose d'important, je trouve. Et j'essaierai de les citer un maximum quand l'album va sortir. Donc voilà. Et puis, ben, du coup, ça a commencé comme ça, sous un arbre. Et puis après, ben, y a eu que des rencontres un peu folles. Y en a un qui m'a aidé dans les arrangements, qui venait d'arriver de Hongrie. En Suisse, et je crois qu'il est encore resté là, donc il m'a aidé pour le développement en studio. Puis une fois que ce travail était terminé, il a fallu monter le team live, et c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe. Ça, c'était une annonce avec Philippe. Les bassistes, il y en a eu qui sont venus, qui sont partis, Puis on a finalement la fixe qui est arrivée à Noël, comme un cadeau presque, en fait, lorsqu'on a enregistré un des derniers morceaux qui est rentré dans l'album qui s'appelle Blow et qui nous représente très fort les quatre, je trouve. Donc voilà, ça a été beaucoup en mouvement, il fallait prendre la vague.
Trouver l'équilibre, c'est ce que j'ai l'impression que vous avez trouvé. Parce que même pas après 2 ans de cette formation, vous avez déjà votre actif plusieurs titres, plus de 14 si je ne me trompe pas.
Il y en a 16 qui vont 16 sortir,
maintenant, ouais. D'accord. Plusieurs concerts dans différents lieux, en Romandie aussi ailleurs en Suisse comme à Torgon pour le festival Rock de Piste. Vous avez des clips. En juin, vous avez le vernissage de votre premier album sur plus de 10 jours. Cet été, une tournée dans les pays de l'Est. Et puis, donc avant de partir pour le Canada... Tout d'un coup, cet engouement pour votre musique, comment vous l'expliquez ?
Je ne sais pas.
C'est rapide.
Je pense que c'est la vie est une question de timing. Ça devait se faire comme ça.
C'est la magie de la vie.
C'est ça.
C'est ça.
Il faut savoir prendre la vague, c'est tout, je pense.
Et puis pour le vernissage, vous le faites donc sur plusieurs jours. Hein.
Oui.
Donc je suppose qu'il y a d'autres choses à découvrir que vos musiques, apparemment.
Oui, parce que comme je l'exprimais juste avant, c'est comme c'est un projet où il y a beaucoup d'intervenants. Je tiens à faire un hommage au travail de chaque personne qui est passée par là. Donc, ça va être des gens du visuel. Donc, il y aura des projections. Les photographes qui nous ont suivis. Donc, il y aura des tirages photos de plusieurs tailles. Et puis, l'objet de l'album et quelques goodies, genre t-shirt, etc. Juste avant de partir en tournée et inviter un peu toute cette famille pour rendre un hommage à ce travail qui est... Pour moi, ça me semble long, quoi. Mais il y a tout le monde qui dit, ah, mais c'est rapide. J'ai dit, oh, mon Dieu. Mais quand on est dedans, c'est intense, quoi, bah, oui, franchement.
Oui, je pense bien.
Donc voilà, je me réjouis d'être au vernissage.
On vous propose d'écouter un nouvel extrait d'une de vos chansons. Elle se nomme Elephantus.
Oui.
Peut-être quelques mots, Philippe, sur cette chanson Elephantus.
Bah, c'est un morceau assez rock, avec des effets synthés. Puis, je ne sais pas trop quoi dire, c'est pas mon morceau, mais en tout cas, il sonne bien, il a une bonne énergie.
Pourquoi ce nom ?
Une bonne vivacité, ouais. Bah, c'est elle qu'il faut demander, c'est son morceau. Ouais. Bah oui. Yeah.
On insiste, on veut savoir pourquoi elle est fan de Victoria.
Bon, en règle générale, les mots, ils tombent un petit peu comme ça, puis après, je construis autour d'un thème, mais ici, c'est un des textes les plus conscients, qui est un regard d'un individu sur le monde. Est-ce qu'on a envie d'être à l'intérieur ou à l'extérieur de cet engrenage? Qu'est-ce qu'on est? Il y a un moment où le poème exprime que je joue avec différentes pièces de l'échiquier. Et je suis en train de penser, mais qu'est-ce que je suis dans cet échiquier? Le pion, le roi, la dame. Et pour moi, l'animal qui représente la plus grande sagesse et la plus grande force, c'est l'éléphant, dans certaines spiritualités aussi d'ailleurs, et que c'était vers lui qu'on trouverait cette réponse. Donc c'était, puis il est tellement puissant, j'ai pensé aussi à l'éléphant d'Hannibal, là, qui a traversé les montagnes, qui est increvable. Donc c'est une force et une sagesse lente, mais juste, qui nous oblige à penser en le regardant, en se disant, ok, le monde c'est quoi?
Okay.
Voilà. Et qu'est-ce que je suis dedans, en fait?
Et je crois que là, vous avez donné envie à nos auditeurs de venir vous voir. Donc, c'est quoi vos prochaines dates, si on veut, puis si on veut avoir plus d'infos?
Où est-ce qu'on peut vous voir bientôt?
Alors là, on a un concept un peu spécifique. C'est que ce week-end, donc samedi, on fait un live studio dans un studio à Vevey. Donc, on peut s'inscrire et puis participer. C'est un live qui sera donc enregistré pour le double album qu'on sort. Donc, tout public est bienvenu. Le studio est proche du Rocking Chair. Et puis après, on a le 16 et 17 mars, donc 16 mars au Dukes à Lausanne, le 17 mars au Citron Masqué, et puis le 19 mars au Rock the Pist. Et puis après, il y a un unplug qu'on peut suivre qui sera le 7 mars. Sur RNV Radio, voilà.
Un beau programme.
Il y a du boulot.
Oui, j'essaie un peu tout.
Tout avant d'être. Voilà. Et puis, on peut retrouver, bien sûr, toutes ces dates sur votre site, vaya-official.com.
Oui, alors, évidemment. Il y a soit ce site-là, soit la page Facebook qui est extrêmement active et qui rappelle tous ces événements et où on est, et voilà, où il faut nous suivre.
Isaura le disait tout à l'heure, vous avez prévu une tournée dans les pays de l'Est et puis au Canada. Est-ce que vous avez dans l'optique ultime de faire une tournée aux États-Unis ou dans d'autres pays lointains?
Oui, en fait, on va poser un ancrage là au Canada. Et puis à partir du Canada, on va tourner là autour. Donc ça va être autour de Toronto. Après, on va descendre sur les États-Unis. J'ai des contacts à New York. On va voir comment ça se passe. Puis l'Amérique du Sud, pourquoi pas.
Ben voilà, c'est tout le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Merci en tout cas beaucoup à vous, Victoria, chanteuse du groupe, et Philippe, guitariste de ce groupe. Merci beaucoup d'être venu par les studios de Radio Django pour nous parler de votre projet et de nous avoir permis de voyager ce soir un petit peu avec votre musique. Merci beaucoup.
Ouais, merci de nous avoir reçus. Merci. C'est super. Merci
une belle soirée à vous, un projet et un sujet proposé et préparé ce soir par Isaora que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé d'un projet de maison de naissance, de santé sexuelle suisse pour les migrants et du groupe lausannois Vaya. Tous ces sujets sont à retrouver à partir de tout à l'heure, voire même au pire demain sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, ce sera Voix d'Exil qui viendra nous présenter un sujet sur le printemps des poètes. Et puis en culture, nous parlerons des printemps de Sévelin avec la participation de Culture Radio. Donc rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Grand Direct. À écouter sur radio.django.fm et sur le DA grâce à la fabrique. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est précisément 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.